Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Il vous est présenté par Nanit Talani. Les femmes enceintes qui développent la pré-éclampsie sont aussi susceptibles d'être victimes de l'éclampsie. Celle-ci se manifeste par l'apparition d'une crise convulsive généralisée dans un contexte d'hypertension gravidique pendant la grossesse ou pendant la période postpartum. L'éclampsie survient donc habituellement comme l'une des redoutables complications majeures de la pré-éclampsie. C'est une urgence vitale pour la mère et l'enfant à naître, car elle peut inclure des convulsions ou un coma. En Afrique, l'éclampsie survient chez plus de 16% des femmes pré-éclamptiques. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les femmes les plus à risque? Quelles peuvent être les mesures préventives pour les grossesses suivantes concernant les femmes qui ont déjà développé une éclampsie? Quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et le bébé?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Elle peut faire un AVC, des délires, une rupture capsulaire, du foie. Elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie, la tête cérébrale. Donc, elle peut même mourir. Sur le bébé, là, c'est la mort fétale intra-utérine.
Pour répondre à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique, nous recevons au cours de notre programme Votre Santé, Votre Avenir, le docteur Maurice Soubou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Vous suivrez en seconde partie de ce programme Carnet de Santé avec Minor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici, chères auditrices et chers auditeurs, le moment de suivre notre interview avec le docteur Maurin Soungou. Docteur Maurin, bonjour.
Bonjour, Manique.
Merci d'accepter de répondre à nos questions concernant l'éclampsie. Nous allons démarrer avec cette question de deux de nos auditeurs, Noël Garcive le Meilleur et Baron Jamal Laurent. Les deux veulent savoir qu'est-ce qui provoque l'éclampsie chez la femme enceinte.
Pour arriver à ce qui provoque l'éclampsie, je commence d'abord par vous dire ce que c'est l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une complication de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie que nous avons définie la fois passée comme étant une association d'une hypertension artérielle où on a le chiffre tensionnel supérieur à la systolique supérieure à 140 et la diastolique supérieure à 80 avec une protéinurie supérieure à 3 grammes par jour et l'apparition des édèmes. Donc, c'est tout à fait triade qu'on définit la pré-éclampsie. Mais dans certaines sociétés savantes, il y a certains éléments spécifiques dont on avait parlé. Alors, cette pré-éclampsie, que c'est compliqué à une éclampsie? Une éclampsie, c'est quoi? C'est quand une personne fait une pré-éclampsie et que ça survient l'apparition de convulsions. Donc, chez une pré-éclampsie, quand elle convulse, c'est ça l'éclampsie.
Ok, mais docteur Maurin, comment survient-elle?
Ça survient comment on a dit la fois passée pour la pré-éclampsie qu'il y avait une hypertension. Cette hypertension est due à quoi? Il y a des enzymes comme la prostacycline qui est une enzyme de vasodilatation avec une thromboxane A2 qui est une enzyme vasoconstrictive. Alors, dans des grossesses normales, il y a un équilibre de ces deux enzymes. Maintenant, en cas de pré-éclampsie, il y a un déséquilibre. Il y a plus de thromboxane A2 que de prostacycline. Alors, le thromboxane entraîne une agrégation plaquettaire au niveau du vaisseau artériel. Alors, cette agrégation-là, c'est à ce qu'il y ait une hypoperfusion. Donc, le cerveau, tout comme on parlait de placenta maternelle, sera hypoperfusé.
Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, docteur?
Alors, dès que le cerveau est hypoperfusé, ça tombe dans un état d'anoxie cérébrale. Il y a donc absence d'oxygène au niveau du cerveau. Comme ça, le corps réagit en convulsion.
Est-ce qu'une femme qui n'a pas fait de pré-éclampsie peut quand même développer une éclampsie?
Non. Non, chez une femme qui n'a pas fait l'après-éclampsie, ne peut faire une éclampsie. Une éclampsie, c'est une des complications phares de l'après-éclampsie. Ça ne concerne que les femmes enceintes, puisque c'est une maladie du placenta. Je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un défaut de vascularisation des artérioles spiralées au niveau du placenta. Donc la seconde invasion-là, c'est le défaut. C'est comme ça que le placenta est hypoperfusé. Cette hypoperfusion placentaire, or le placenta, c'est l'organe d'échange maternel et fœtal. Ça fait que ça libère les enzymes dont je viens de parler, qui sont les responsables de toutes les conséquences.
D'accord. Est-ce que parmi vos patientes, il y en a qui développent ou qui ont développé l'éclampsie?
Oui, il y a toujours des patientes qui développent l'éclampsie. Comme nous avions dit, le patient qui ne vient souvent pas au CPN, aux consultations prénatales, puisque avant d'arriver à cette éclampsie-là, il y a des prodromes, quelques signes qui annoncent l'éclampsie, avant que la femme commence à convulser. Donc, elle vient, elle vous dit, ou lors d'une consultation, vous voyez que la personne a des flous visuels, une diplopie, une vision double, des acouphènes, ou qu'elle ait une épigastralgie en barre. Avec ces signes-là, ça vient juste quelques jours avant l'apparition de convulsions.
Que faites-vous en ce moment-là?
Alors, quand une dame vous vient comme ça, vous savez prévenir, vous lui donnez le sulfate de magnésie qui prévient l'arrivée de convulsions. Alors, une femme qui ne fait pas de CPN, et puis vu que ce n'est pas vulgarisé, quand elle fait une pré-éclampsie et qu'elle ne vient pas à l'hôpital, elle va faire certainement une éclampsie. On en a eu des cas et plusieurs cas, nous pouvons dire, qui viennent de milliers un peu ruraux. Les dames qui ne connaissent pas de ces peines, quand elle fait par exemple une éclampsie, elle est en train de convulser ou elle a une vision double pendant la grossesse, elle développe ces prodromes-là. Vu qu'elle vit dans un milieu rural, on est en train de diaboliser ça. On dit que non, c'est une maladie, c'est un sort qu'on lui a jeté ou quoi. C'est que ça se passe dans les milieux ruraux. Alors quand on vous amène ces genres de dames, elle vous vient dans un tableau tonico-clonique avec des fortes convulsions où elle est même déjà entrée dans la dernière phase, là, la phase 4, la phase des comas, et pour la récupérer, c'est un peu difficile. On en a eu des cas comme ça, de dames qui ne sont pas compliantes au CPN, aux consultations prénatales, ou au traitement qu'on leur donne de la pré-éclampsie. Quand vous ne suivez pas bien ces traitements, vous risquez de tomber dans cette complication.
D'accord. En dehors des convulsions, y a-t-il d'autres signes qui peuvent caractériser une éclampsie?
Oui, c'est ce que nous appelons les prodromes. Donc, la femme, avant qu'il y ait survenu de convulsions, la femme vous dira qu'elle a de troubles de vision. Elle peut avoir une vision double, une photophobie, ou soit elle vous dit qu'elle a des acouphènes, qu'elle entend des bruits dans les oreilles. Une autre vous dira qu'elle a des céphalées occipitales. Chez d'autres encore, ce n'est pas ces signes-là, c'est une épigastralgie là, en barre. Alors, quand une dame vous vient avec ces signes, si c'était une pré-éclampsie, qu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie, vous dites que là, c'est l'éclampsie qui s'annonce, et vous prévenez ça en donnant du sulfate de magnésie. Chez des dames, quand elles ont ces prodromes, ces signes-là, qui ne reçoivent pas de sulfate de magnésie, elles vous viennent dans un tableau de coma ou dans un tableau tonico-clonique avec de fortes convulsions là. Et à ce moment-là, vous devez couper ça avec le diazépam et ou le phénobarbital. Ensuite, vous donnez le sulfate de magnésie. Et si elle était enceinte, vite évacuée. Cette grossesse-là, vous la couchez par césarienne et commencez à l'observer en soins intensifs. Quand vous faites une éclampsie comme ça, ça peut se compliquer. Il y a plusieurs complications qui peuvent arriver puisque le cerveau n'est plus oxygéné.
Quelles sont les autres conséquences qu'une telle situation peut entraîner?
Alors, certaines autres peuvent faire même jusqu'à faire l'AVC, d'autres jusqu'à en mourir, puisque tu feras une hémorragie cérébrale. À force de convulser, le petit vaisseau peuvent se rompre et tu commences à saigner au niveau de la tête, une hémorragie cérébrale, faisant un AVC. Chez d'autres, elles meurent même comme ça.
Vous avez répondu partiellement à une question de Jérémy Moubiaye, qui s'intéressait à la prise en charge de l'éclampsie. Quelles peuvent être les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et sur le bébé?
Sur le bébé, Là, c'est la mort fœtale intra-utérin. Si elle commence à convulser, dans le minute qui suit, vous enlevez le bébé. Puisque comme la maman n'est pas suffisamment perfusée, ce qui fait que l'enfant aussi sera en hypoperfusion, il va souffrir jusqu'à mourir. Comme le cerveau, c'est l'organe noble, il n'est plus perfusé, c'est que l'enfant aussi, là, il n'est plus perfusé. Alors, il aura une souffrance fœtale jusqu'à ce que l'enfant peut mourir. Si vous l'enlevez à temps, vous faites une césarienne à temps, là, vous pouvez sauver l'enfant.
On peut bien voir que l'éclampsie a des conséquences très désastreuses sur le bébé. Et qu'en est-il de la mère?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Comme j'ai dit, elle peut faire un AVC. Le fait que le cerveau soit privé pendant longtemps d'oxygène, elle peut faire des délires, elle peut faire une rupture capsulaire du foie, elle peut faire... Il y a plusieurs conséquences qui peuvent arriver chez la maman. Donc elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie là, intracérébrale, être un poids pour la société. Donc, elles peuvent même mourir.
Le bébé, pour le sauver, l'unique solution demeure
une césarienne
rapide.
Oui, oui, une césarienne en urgence. Quand les convulsions commencent, même si la dame a déjà commencé à convulser il y a plus de 30 minutes et que la dame vous vient après en catastrophe, là, l'enfant a déjà souffert et est déjà parti. Là, vous pouvez même faire la césarienne juste pour sauvetage maternel et l'enfant sera déjà décédé.
Quand une femme a déjà fait une éclampsie, cela signifie-t-il qu'elle va encore en être victime pour les grossesses à venir?
Chez une femme qui a déjà fait une éclampsie, elle a vraiment un haut risque de refaire ça. Mais ce n'est pas pour toutes les grossesses. Dans les consultations prénatales, nous pouvons prévenir chez ces dames pareilles. Quand elle vient comme ça, vous lui donnez de l'aspirine junior, question de prévenir, et vous faites une surveillance de sa tension artérielle. Quand il n'y a pas ces mesures, elle peut le refaire. Elle est vraiment au risque de refaire encore une pré-éclampsie ou une éclampsie. Donc elle peut le faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même après l'accouchement, elle peut refaire cette éclampsie-là. Lors des grossesses ultérieures, disons.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour éviter que les femmes fassent l'éclampsie pendant la grossesse ou après la grossesse, quelles sont les mesures préventives que vous préconisez?
Les mesures préventives que nous mettons en place, premièrement, c'est quand la dame a déjà fait une pré-éclampsie. Quand c'est sévère ou modéré, vous donnez directement le sulfate de magnésie. Quand vous le mettez en perfusion par 24 heures, par 24 heures, ça couvre la dame, vous verrez que ça prévient les convulsions en fait. Donc la dame ne va pas convulser. Et pour vous traiter son hypertension là, et vous lui donnez de l'aspirine junior. Quand vous observez ça et vous faites une surveillance là avec expectative armée, chez cette dame-là, elle ne fera pas d'éclampsie. Mais lorsque vous lâchez ou lorsqu'elle n'a pas fait ses consultations prénatales, elle n'a pas été éduquée pour mieux suivre l'évolution de sa grossesse ou mieux la surveiller, là, elle peut être susceptible de le refaire.
Y a-t-il des femmes enceintes qui sont plus à risque par rapport à d'autres?
Oui, les femmes à risque, c'est les femmes qui peuvent faire une pré-éclampsie ou une hypertension artérielle s'y rajouter. Donc la femme qui était hypertendue avant la grossesse, elle peut le développer. Ou une femme qui a fait une pré-éclampsie ou chez certaines femmes avec obésité ou on peut dire ça, avec obésité, ils sont susceptibles à faire ça. Ou diabète gestationnel, chez une femme qui a fait une diabète gestationnelle ou qui est diabétique, et c'est fort probable qu'elle fasse ça. Ce genre de grossesse, nous les surveillons dès le début.
Okay. Docteur Sungu, si nous prenons 100 femmes que vous suivez, il y en a combien, par exemple, qui pourraient développer une éclampsie?
Chez les femmes que nous suivons, par exemple, si nous prenons cette année 2021, depuis le début, j'ai déjà eu une dame seulement qui a fait la pré-éclampsie. Il y avait la non-observance du traitement qu'on donnait, le traitement anti-hypertenseur qu'on lui donnait, puisqu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie. Quand nous lui avons demandé de prendre le produit, de surveiller la tension, si elle pouvait le prendre à la maison, elle avait ces moyens-là, mais elle ne l'a pas fait. Finalement, on l'avait amenée dans un état tonico-clonique. Après, elle a fait même un AVC. Depuis 2021, janvier, il y a une dame, mais ce n'est pas très fréquent en ville ici. C'est pas très fréquent puisque nous faisons des CPN, mais les femmes qui nous viennent de milliers un peu réguliers, rira là, c'est là que c'est trop fréquent. Elles ne font pas de consultation prénatale.
Mais est-ce que cette femme, elle a pu garder son bébé?
Oui. Donc quand elle est venue, elle venait dans les 30 minutes qui suivaient la première convulsion et nous avons fait une césarienne d'urgence et là, elle est en train de récupérer ses membres petit à petit. Ah. C'est au mois de février, mais là, elle essaie de marcher. Et vous voyez quand même le séquel d'AVC là.
C'est vraiment une très bonne nouvelle que cette femme, malgré l'éclampsie, ait pu récupérer son bébé. Vous venez aussi de dire, docteur, que les femmes rurales sont celles qui sont le plus susceptibles de développer une éclampsie parce qu'elles ne font pas le suivi prénatal comme il se doit. Quels moyens de sensibilisation mettez-vous en œuvre pour ces femmes-là?
D'ailleurs, c'est le gouvernement qui met les moyens. Le gouvernement met les moyens en jeu pour que le médecin vulgarise cela et fonde des CPN gratuitement, que le médecin aille même dans des milieux réguliers afin de voir ces femmes. Tout ça, c'est le gouvernement qui doit les faire. Mais nous, dans notre milieu, le gouvernement ne le fait pas encore. C'est que nous-mêmes, le médecin, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne sait pas le faire de lui-même. Ce sont des structures qui viennent en appui à des centres de formation médicale pour vulgariser cela.
À votre avis, docteur, qu'est-ce qui doit donc être fait pour mener une bonne campagne de vulgarisation, de sensibilisation, afin d'éviter des situations qui conduisent à des drames comme l'éclampsie?
Pour éviter qu'on en arrive là, pour nous, on demande aux bienfaiteurs, d'abord premièrement au gouvernement congolais, ou africains, disons, de soutenir leur structure sanitaire. Le gouvernement doit nous soutenir dans cette démarche-là. Et à part le gouvernement, le bienfaiteur, les ONG qui peuvent venir et soutenir, puisque les médecins sont toujours disponibles pour vulgariser, mais il faut du moyen. On ne sait pas donner plus que ce que nous faisons.
Ok, pour terminer, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à toutes les femmes enceintes, mais aussi à leur entourage? Parce que je crois que l'entourage a aussi un rôle à jouer.
Oui, l'entourage a un rôle à jouer, surtout quand une femme est enceinte pour la première fois ou pour la deuxième fois. Quand elle vient souvent, ce genre de femmes-là, elle vous dit « Non, ma maman m'a dit ceci. Oh, telle qui avait eu une grossesse avant moi m'a dit ceci. » Alors, pour cet entourage-là, nous disons que quand une femme a une grossesse, il faut lui demander d'aller à l'hôpital d'abord, premièrement, pour qu'on confirme cette grossesse. Deuxièmement, qu'on fasse un calendrier de suivi de cette grossesse-là. Ça, c'est pour l'entourage. Ils doivent encourager nos femmes à venir dans des structures sanitaires.
Et à la femme enceinte?
Pour la femme enceinte elle-même, qu'elle vienne en consultation, c'est tout. Qu'elle vienne en consultation et qu'elle apprenne à prendre et à prélever l'attention, l'automesure, là, c'est une bonne chose. Quand elle se reconnaît hypertendue ou quand elle commence à développer l'hypertension au cours de la grossesse.
Ok, merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, Nani.
C'était notre entrevue avec le docteur Morin Sungu, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Cinquantenaire et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est l'heure de Carnet de santé avec Victor Mouto.
Cette semaine, dans Carnet de santé, perte de cheveux ou alopécie, on en parle. Quelles sont les causes de l'alopécie et comment prévenir cette perte des cheveux? Un expert nous en dit plus. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Vous perdez vos cheveux? Peut-être souffrez-vous d'alopécie. L'alopécie est la chute des cheveux ou des poils. Il est normal qu'une personne perde 50 à 100 cheveux par jour, selon l'Académie américaine de dermatologie. Mais parfois, la perte de cheveux peut être un signe important de maladie. La perte de cheveux ou l'alopécie affecte parfois le cuir chevelu ou l'ensemble du corps d'autrefois de façon temporaire ou permanente. Elle peut être héréditaire ou causée par le vieillissement, des changements hormonaux ou un problème médical. L'alopécie peut apparaître soudainement ou progressivement et peut être légère ou sévère. L'altercation entre Will Smith et Chris Rock aux Oscars le mois dernier a eu pour effet secondaire de mettre en lumière l'alopécie, une maladie qui touche la femme de Will Smith et de nombreuses personnes dans le monde. Alfredo Junior de la VOA a demandé à des personnes dans les rues de Maputo au Mozambique ce qu'elles pensent ou elles savent de l'alopécie. Regardez.
Avez-vous déjà entendu parler de l'alopécie?
Non, je n'en ai jamais entendu parler. C'est nouveau pour moi. Je viens d'apprendre par vous que cette maladie existe.
Et si je vous dis que cette maladie est liée à la calvitie?
La calvitie? Peut-être que c'est la perte de cheveux qui provoque la calvitie. Je n'en sais rien. La calvitie est aussi une perte de cheveux, mais je ne peux pas faire la différence entre ces deux choses.
Je regardais un feuilleton. Il y a un personnage qui souffre de cette maladie. Elle perdait ses cheveux, et ainsi de suite.
Le docteur et spécialiste en dermatologie, Nitya Mesquita, explique ce qu'est cette maladie.
L'alopécie areta signifie la calvitie, ou en termes courants, devenir chauve. Il s'agit d'un trouble qui se produit en raison de problèmes auto-immunes. Auto-immune signifie que l'organisme se bat contre, c'est-à-dire que le corps ne reconnaît pas les cellules de son propre organisme. Dans ce cas, il se bat contre le follicule pileux, ce qui entraîne la calvitie ou la perte de cheveux.
Le médecin explique que les causes de l'alopécie sont diverses.
Nous avons des facteurs génétiques associés à la calvitie, ce qui signifie que si un père ou une mère souffre de calvitie, l'enfant a un risque élevé de développer une calvitie. Nous avons d'autres facteurs comme la malnutrition chronique, l'anémie. Et il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier et que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, surtout chez les enfants, ce sont les traumatismes psychosociaux, la violence, l'agression physique, les agressions sexuelles, qui sont des traumatismes psychologiques ou physiques pouvant entraîner la perte des cheveux.
Selon le docteur, de nombreux Mozambicains prennent rendez-vous dans sa clinique à la recherche d'une solution pour l'alopécie.
Le traitement doit être individualisé en fonction de ce qui a provoqué l'alopécie, la perte de cheveux. Ainsi, si la cause était le stress, outre les compléments que nous prescrivons pour l'alopécie, nous devons résoudre le problème à l'origine du stress.
Malgré la prédominance sur le cuir chevelu, les signes de l'alopécie peuvent être observés dans d'autres parties poilues de l'organisme.
Le docteur Zeina Babadan Agundi est dermatologue au Centre médical fédéral du Nigeria à Abuja. Elle nous en dit plus sur l'alopécie.
L'alopécie est juste un terme médical qui signifie perte de cheveux. La susceptibilité est à peu près la même pour tout le monde. Environ 40% des hommes et des femmes ont une sorte de perte de cheveux au cours de leur vie. Le type le plus courant d'alopécie ou de perte de cheveux est l'alopécie androgénique. Il y a une composante patrimoniale qui concerne principalement les adultes. Mais pour les enfants, le type courant est l'alopécie areata, qui est généralement à médiation immunitaire, ce qui signifie que les cellules du corps se battent entre elles, de sorte qu'elles endommagent l'ouverture des cheveux. Aussi couramment au Nigeria, la perte de cheveux survient chez les enfants en raison de ce que nous appelons tinea capitis, qui n'est qu'une infection fongique superficielle. Pour l'alopécie totalis, il y a une perte totale de cheveux de tout le cuir chevelu. C'est aussi à médiation immunitaire. Il est possible que les cheveux repoussent tout seuls, mais parfois pour un traitement précoce, nous utilisons des stéroïdes oraux ou des stéroïdes typiques. Parfois, nous faisons même des injections sur le cuir chevelu qui peuvent stimuler la croissance des cheveux. L'alopécie peut être le signe de tant d'autres choses. Ainsi, l'alopécie peut survenir avec des maladies de la peau, comme le psoriasis ou la dermatite atopique. Il peut y avoir d'autres problèmes systémiques qui peuvent survenir avec la perte de cheveux, par exemple une carence en fer, ou s'il existe une forme de malnutrition, ou avec des maladies auto-immunes comme le diabète sucré, une maladie thyroïdienne, l'olipus érythémateux disséminé. On le voit surtout chez les femmes en âge de procréer. Même le stress ou d'autres troubles psychologiques peuvent causer cela. Certaines mauvaises pratiques capillaires dont les gens ne sont pas conscients peuvent provoquer une perte de cheveux, par exemple l'utilisation de défrisants chimiques ou de peignes chaudes. Parfois des traits serrés peuvent entraîner une perte de cheveux. Je pense que les gens ne savent même pas que la perte de cheveux est une réelle maladie qui mérite une consultation chez un médecin pour qu'un diagnostic puisse être posé ainsi qu'un traitement précoce entamé, ce qui peut changer l'histoire de la perte de cheveux. Nous devons également traiter les maladies sous-jacentes et peut-être le traitement de la principale maladie de peau associée à la perte de cheveux. Il existe des options de traitement. Nous pouvons leur donner des médicaments qui aideront les cheveux à repousser plus rapidement. Ensuite, ils peuvent utiliser des perruques pour couvrir la zone touchée, puis dans certains cas particuliers, ils peuvent recourir à une greffe de cheveux, ce qui n'est pas disponible en ce moment dans cette partie du monde.
L'agriculture est un travail exigeant physiquement et mentalement. Savoir comment faire pousser et maintenir les cultures peut être difficile et la récolte laborieuse. En République démocratique du Congo, les gens se forment dans un camp d'entraînement agroécologique pour améliorer leur santé et apprendre de meilleures techniques agricoles. Regardez.
De bon matin à Toribosito, une communauté rurale du Bénin, Jean-Paul Mangata travaille avec d'autres jeunes agriculteurs en herbe. Étirement, saut, jogging, un programme aux allures militaires réalisé dans une bonne ambiance.
Pour la pratique agricole, c'est très important d'être en pleine forme. Et qui dit être en pleine forme dit il faut faire le sport. Et voilà, il faut forcément réveiller aussi bien l'esprit que le corps.
Alors que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à sa pire crise alimentaire, provoquée par des conflits et la sécheresse selon les agences d'aide, le concept du bootcamp a été mis en place par l'ONG bénino-nigérienne Les Jardins de l'Espoir. Il mélange des techniques d'apprentissage pratiques et théoriques tout en encourageant les participants à rester en forme.
On s'est rendu compte quand même qu'il y avait besoin de formation en la matière. Donc tout de suite nous avons initié un camp de formation vraiment très pratique. C'est vrai qu'il y a des théories, mais on va beaucoup plus sur le côté pratique des choses. Je voulais montrer quand même des connaissances, des compétences et aussi des techniques pour pouvoir pratiquer l'agriculture d'une manière saine. Parce que l'agroécologie, c'est une agriculture qui se pratique sans pesticides. Nous avons les palliatifs quand même pour ces différents pesticides-là et les techniques quand même pour les permettre d'avoir des rendements vraiment extraordinaires.
De retour dans sa Kinshasa natale, Jean-Paul Mangata a hâte d'appliquer ce qu'il a appris au Bénin. Son entreprise Tomela Wines, créée en février 2020, produit du vin à partir de fruits locaux comme la carambole et les palmiers. Grâce au bootcamp, il envisage d'enrichir le sol de sa plantation avec une combinaison de différentes techniques biologiques.
Ça fait plaisir parce que vous savez que votre modèle de production est orienté vers un modèle de production qui va permettre la survie de la planète et qui ne va pas... être un facteur pour la destruction de la planète. Et donc ça fait déjà plaisir étant qu'humain. Parce que aujourd'hui nous avons une ascendance qui nous a précédé, mais nous avons une descendance encore qui viendra avant nous, qui viendra après nous.
Pour le moment, Tomela Wines produit environ 60 litres de vin de palme et 37,5 litres de vin fermenté de fruits par trimestre en fonction de la demande. Le prochain objectif de Mangata est d'accueillir des cuves de fermentation de 400 litres afin d'augmenter sa production.
Nous utilisons souvent des vitamines et des compléments alimentaires pour renforcer notre système immunitaire et améliorer notre santé. Mais saviez-vous que certains d'entre eux peuvent affecter l'effet de vos médicaments ? Eh bien, les experts rapportent qu'une variété de compléments alimentaires peut augmenter, réduire ou annuler les effets d'un médicament de manière imprévisible ou significative. Selon la FDA, l'Agence de régulation de la nourriture et des médicaments des États-Unis, certains compléments alimentaires peuvent modifier l'absorption, le métabolisme ou l'excrétion d'un médicament et donc affecter son effet.
Nous voici au terme de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Nous avions reçu le docteur Maurice Lungu, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Contenaire et à la polyclinique Shukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a expliqué entre autres quelles sont les répercussions de la crise des éclampsies sur la maman et le bébé,
la prise en charge, mais aussi et surtout des mesures préventives contre l'éclampsie. Dans la deuxième partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Minor Moudou. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Lani Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.